va bien, vous êtes sur Europe 1. Bonsoir à tous. Un an après le retour des talibans au pouvoir, des Afghans vendent leurs enfants ou leurs organes. Épouvantable chronique d'un pays en plein effondrement. Entre exclusion de la communauté internationale et crise humanitaire et économique, nous en parlons largement à 19h30 dans un panorama dédié à l'Afghanistan. Un an après le retour des talibans au pouvoir. Et puis à 18h15, focus sur un événement moins connu mais très important de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de Provence. C'était un 15 août et à la grande différence de celui de Normandie, il fut mené majoritairement par des soldats français, notamment d'Afrique. Éclairage d'une historienne au programme d'Europe Soir. Sans oublier vos rendez-vous littéraires, d'opinion et d'information. Il est tout juste 18h, bienvenue à tous. Et nous commençons par un premier journal. La France a définitivement quitté le Mali. Les derniers soldats sont partis tout à l'heure à 11h temps universel. Fin d'une parenthèse de 9 ans dans un climat délétère. Parenthèse car l'opération Barkhane continue au Sahel. Un homme meurt après un rodéo urbain à Colmar. Il a voulu l'empêcher. Il a été froidement abattu hier. Le point sur l'enquête dans quelques instants. Et puis, portrait d'un député pas comme les autres, en pleine vacances parlementaires. Il travaille, il exerce son vrai métier, agriculteur. Il s'appelle Jean-Luc Bourgeot, député d'Ille-et-Vilaine. Europe 1 l'a rencontré. La tendance météo, Anthony Kazmarek.
Eh bien demain, retour déjà des orages sur une très large moitié ouest du pays, alors qu'à l'est, jusqu'à la Provence, soleil et chaleur seront temporairement de retour.
C'est bien noté, Anthony. Météo complète, juste après le journal.
Europe 1.
Accueillie en Libérateur il y a 9 ans, l'armée française quitte le Mali dans un climat lourd, hostile, sur fond de tensions avec la junte au pouvoir, favorable à la Russie notamment. Les derniers soldats français ont passé la frontière malienne à 13h, heure de Paris, selon l'état-major. L'opération Barkhane continue, mais sera désormais basée dans d'autres pays du Sahel, le Tchad ou encore le Niger. Pour le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales, c'est une page de la politique africaine de la France qui se tourne.
C'est la fin d'une ère et d'une opération qui a remporté un certain nombre de succès, mais qui a connu l'usure naturelle au bout de 9 ans. La France avait décidé de partir après un désaccord avec le gouvernement putschiste du Mali, et elle avait décidé de partir avant la fin de l'été. C'est chose accomplie, malgré les menaces du gouvernement malien qui demandait de partir immédiatement. Ça n'est pas la fin d'une opération, il y a toujours une opération en cours, avec en particulier le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, avec lesquels il y a des accords pour que la France continue à aider les forces africaines à lutter contre les djihadistes.
Le général Dominique Trinquant, il répondait aux questions de Maël Hassani. Et ce soir, un expert de l'ONU déplore le climat délétère régnant actuellement au Mali. Le 15 août 2022 restera donc la date du départ du dernier soldat français du sol malien. Un an avant, le 15 août 2021, les États-Unis retiraient leur armée d'Afghanistan, laissant les talibans reprendre le pouvoir. Les fondamentalistes proclament ce 15 août comme jour férié. Des klaxons ont retenti à Kaboul ce matin. Une manifestation de solidarité aux Afghans plongés dans un drame humanitaire a lieu à Paris en ce moment. L'Afghanistan, un an sous le joug des talibans, c'est le thème de notre panorama ce soir. Ce sera vers 19h30. Et puis dans le journal de 19h, nous serons au procès de Benjamin Mendy, accusé de viol multiple. Le footballeur français champion du monde a écouté l'acte d'accusation cet après-midi à Chester, au Royaume-Uni. Il y est qualifié de prédateur, ayant abusé de victimes vulnérables et isolées. C'est au chapitre justice également cette enquête ouverte dans le Haut-Rhin après la mort d'un homme à Colmar hier. Mélina Fachin, il s'agit d'un Afghan de 27 ans touché par balle en marge d'un rodéo urbain.
Oui, ce dimanche après-midi, non loin du centre de Colmar, un groupe d'amis profite d'un barbecue au soleil. Tout près de chez eux, un homme à scooter fait un rodéo urbain. Importuné par le bruit, le groupe de copains intervient, lui demande d'arrêter. Le ton monte, une dispute éclate. L'homme à scooter finit par partir. Mais quelques minutes plus tard, il revient, armé. Il ouvre le feu sur la bande d'amis et fait un blessé grave. Un Afghan de 27 ans, inconnu des services de police. Transporté en urgence à l'hôpital dans un état critique, la victime finit par succomber à ses blessures quelques heures plus tard. Le suspect est en fuite depuis hier, activement recherché par la police judiciaire de Mulhouse, à qui l'enquête a été confiée. La procureure de Colmar n'exclut pas qu'il puisse y avoir plusieurs personnes impliquées dans ce crime. Elle ouvre une information judiciaire pour assassinat.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg et puis à Pékin, à Perpignan. Hier soir, un homme tué par des tireurs en scooter dans la cité du Bavernais, déjà théâtre de violence la semaine dernière. Un jeune de 20 ans a également été blessé. Selon le parquet, il s'agit probablement d'un règlement de compte. Les Pyrénées-Orientales, où un incendie s'est déclaré la nuit dernière vers Caudiès de Fenouillède. Le feu est maîtrisé et a parcouru 110 hectares sans menacer d'habitation. La région Occitanie, où de très nombreux départements n'auront pas le droit au traditionnel feu d'artifice du 15 août. Ils ont été interdits justement en raison du risque élevé d'incendie, comme en Gironde. Au total, une trentaine de préfectures ont pris des arrêtés. Des exceptions toutefois sur la façade atlantique. Pas très loin d'ailleurs des régions touchées par les gigafeux girondins de juillet de la semaine dernière. À Royan, en Charente-Maritime, à une centaine de kilomètres de là, le feu d'artifice sera tiré ce soir, mais vers la mer et avec toutes les précautions possibles. Le maire de la ville, Patrick Marango.
Là, c'est un feu d'artifice qui est tiré à partir d'une plage urbaine, c'est-à-dire sans massif boisé à proximité. On peut tirer d'autant qu'on tire à partir de la mer, c'est-à-dire sur des plateformes où sont prépositionnées toutes les charges et en dessous, vous avez l'eau de mer, ce qui fait que les plateformes étant orientées vers la mer avec 5 degrés à peu près, le risque est très faible. Nous sommes en mesure d'interrompre le feu à tout moment. Par ailleurs, il y a un PC interservice de sécurité, un poste de commandement interservice, qui conduit toute l'opération. On l'a géré en amont, on l'a préparé, on a planifié, c'est vraiment sérieux. On est très solidaire des communes qui ont été éprouvées, très solidaire de tous les soldats du feu qui sont intervenus. Un feu d'artifice a vocation à apporter de la joie et pas à défigurer un paysage.
Patrick Marango, le maire de Royan, au micro d'Alexandra Gégy. 100 000 personnes pourront donc assister au feu d'artifice ce soir. Voilà, et puis le 15 août, c'est avant tout une fête religieuse, l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, messe traditionnelle à Lourdes, Lisieux, Pontmain et dans bien d'autres lieux symboliques aujourd'hui en France. Restez avec nous, car le 15 août, des choses changent également, avec notamment l'augmentation dès aujourd'hui de la prime de conversion pour s'acheter un vélo électrique. Charlotte Barrican nous explique tout ça dans quelques instants. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
La suite du journal sur Europe 1, vous avez jusqu'au 31 décembre prochain pour en profiter. L'État vous aide à acheter un vélo électrique. Dès aujourd'hui, la prime classique passe de 200 à 300 euros. Autre coup de pouce intéressant, notamment pour les foyers les plus modestes, le doublement de la prime de conversion. Bonsoir Charlotte Barrican.
Bonsoir Raphaël, bonjour à tous.
Alors concrètement, vous vous débarrassez de votre vieux véhicule thermique et on vous donne de quoi acheter un, voire plusieurs vélos électriques.
Oui, dès aujourd'hui, pour les foyers avec un revenu fiscal inférieur à 6300 euros et pour les personnes en situation de handicap, le montant de la prime à la conversion va doubler. Donc concrètement, lorsque vous vous débarrassez de votre vieille voiture diesel ou de votre scooter à essence, l'aide passe de 3 000 euros maximum pour les revenus les plus modestes, contre 1 500 euros pour les autres bénéficiaires. Et elle sera assez accessible à plusieurs membres d'un même foyer. Donc dans certains cas, vous pourrez avoir jusqu'à 2 vélos électriques. Alors pour bénéficier de cette aide, 2 solutions. Vous faire avancer le montant de la prime par le concessionnaire ou faire une demande en ligne via le site du ministère de la Transition écologique. Alors on peut se demander pourquoi cette augmentation ? Eh bien parce que l'État veut encourager les Français à passer encore plus vite à l'électrique. Et selon Gary Assens, fondateur de Alltrix, le leader du vélo en France, ces nouvelles aides devraient rapidement se ressentir dans les ventes.
Ça c'est sûr, plus les aides sont nombreuses et plus elles sont généreuses, plus ça incite et encourage effectivement, donc c'est très bien. Mais la disponibilité sur les vélos n'a pas été évidente ces derniers temps, mais ça commence à revenir à la normale en ce moment, donc les planètes se réalignent. Et avec les problèmes de carburant qu'on a et de coût de l'énergie d'une manière générale, je pense qu'effectivement on devrait avoir un effet de levier assez fort là, dans les prochaines semaines.
Alors c'est peut-être le bon moment pour passer au vélo électrique, d'autant que dès le 1er septembre à Paris, stationner son scooter à essence deviendra payant.
Merci Charlotte Barrican. Le vélo électrique appelé à se généraliser, il représentait déjà en 2021 un quart des bicyclettes vendues. Tiens, lui a voté pour le dernier paquet pouvoir d'achat permettant ses remises sur les vélos électriques. Jean-Luc Bourgeot, député Les Républicains d'Ille-et-Vilaine, le locataire du siège 145 à l'Assemblée nationale, nous intéresse car lui, pendant les vacances parlementaires, il revient à son vrai métier, l'agriculture. Jean-Luc Bourgeot a reçu Alexis de la Fontaine dans son exploitation bretonne.
Allez-y, rentrez.
À Cherhuet, dans une petite commune de 1000 habitants, Jean-Luc Bourgeot, député Les Républicains, nous accueille chez lui dans sa ferme.
4 hectares d'orge, 18 hectares de blé et 23 hectares de maïs.
Et très rapidement, Jean-Luc nous explique pourquoi il a tenu à garder deux vies, celle de député et d'agriculteur.
Vous savez, parce que là, c'est une ferme familiale. C'est-à-dire, mon grand-père est arrivé en 1935 ici. Voilà, on y tient. Il y a quelque chose, quoi, quand c'est comme ça, familial.
Mais pour ce député, c'est également une façon de rester proche des préoccupations des Français, car il juge ses collègues rapidement déconnectés.
On devrait être plus nombreux, à la limite, comme ça, de personnes qui, par rapport à leur métier, puissent comme ça représenter un pan, on va dire, à l'Assemblée nationale.
Une mentalité et une proximité appréciées par ses administrés, comme Daniel, un retraité du village.
Jean-Luc, il est disponible, quoi. Dès qu'on a besoin de lui ou pour n'importe quoi, Jean-Luc arrive.
Et si l'on écoute Jean-Luc, cette double vie n'est pas près de s'arrêter.
Donc il y a au moins 10 ans encore à ce que je me promène sur mon tracteur et que je cultive.
Et encore 10 ans à l'Assemblée ou pas?
Ah ça, je sais pas. Je commence, donc on verra bien.
Avant la rentrée parlementaire le 3 octobre, Jean-Luc peut encore se concentrer sur les travaux de sa ferme.
Tiens, à retenir également le classement Shanghai des meilleures universités du monde. Paris-Saclay, université française la mieux classée, perd 3 places par rapport à l'année dernière et se classe 16e des universités américaines. Trust les 3 premières places. Harvard est en première position. Le sport, et malheureusement Kevin Mayer renonce à son incroyable défi après son titre de champion du monde du décathlon aux États-Unis. Il tentait le doublé avec le titre européen à Munich, mais il a renoncé dès la fin de la première épreuve, le 100 mètres, en raison d'une blessure.
Cette douleur, j'ai depuis 3 mois avant Eugene. Et j'ai choisi beaucoup de repos, beaucoup de récup, j'ai pas testé. Et jeudi dernier, j'ai testé et malheureusement, j'avais encore super mal. C'était un objectif tellement incroyable de réussir à faire 2 médailles en 2 championnats en 3 semaines. Je voulais me donner une chance d'y arriver. Peu importe mes sensations, peu importe quoi, je voulais être là le jour J sur la piste et voir comment ça répondait. Mais aux 50 mètres, quand je commence à sentir que ça se tend de plus en plus, je sais pas jusqu'où ça va tenir. Et je veux surtout pas partir en repos avec une blessure. Je veux surtout pas avoir une dette pour l'année prochaine. Je suis vraiment désolé à tous ceux qui croyaient en cet exploit. J'y croyais aussi. Je me suis donné l'opportunité, mais ça s'appelle pas un exploit pour rien. J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre.
Voilà, les yeux plus gros que le ventre de Kevin Mayer. Et puis à Munich, il y a aussi en parallèle les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Un titre pour le Français Melvin Landerneau cet après-midi. Il décroche l'or à l'épreuve du kilomètre. Et puis en natation, cocorico, une autre médaille française. Elle est en argent cette fois-ci. Elle est décrochée par Marie Vatel. Elle est arrivée 2e de la finale du 100 mètres papillon. Les championnats d'Europe de natation, c'est à Rome en Italie.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
Le retour d'Anthony Cazemarec. Anthony, de nouveaux orages attendus demain.
Eh bien oui, c'est reparti pour un tour, mais on en a besoin. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Ces orages arriveront par la Bretagne très tôt le matin. Ils vont se décaler à la mi-journée vers la Nouvelle-Aquitaine, vers les Pays de la Loire, la Normandie, à l'avant. Le ciel va se charger, mais les orages arriveront, moins nombreux certes, mais ils arriveront vers le Massif central, l'Île-de-France et les Hauts-de-France dans le courant de l'après-midi. Et attention, en soirée, ces orages risquent d'être violents entre l'Occitanie et l'Est de l'Auvergne, alors que des éclaircies, mais aussi des averses, seront de retour sur la côte atlantique. Mais plus à l'Est, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'en Rhône-Alpes, jusqu'à la Méditerranée, vous aurez du soleil toute la journée et aussi de la chaleur. Très temporairement, ça va grimper dans ces régions. Il fera demain après-midi 34 degrés à Avignon, 33 degrés à Grenoble et à Marseille, 32 à Lyon, 30 à Strasbourg et Saint-Etienne. Ailleurs, ça va baisser un peu après le passage des orages, mais ce sera toujours de saison. 27 degrés à Paris et à Lille, 26 à Bordeaux, 25 pour Limoges et pour Orléans, 23 à Rennes et à Nantes et la minimale pour Cherbourg avec 21 degrés.
C'est bien noté, merci Anthony Cazemarec. On vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau point météo.
Europe 1. Le choix de Mola.
Nos bons conseils lecture de l'été. Allons entre rêve et réalité ce soir. Élise sur les chemins, ouvrage particulièrement original signé Bérangère Cornu et conseillé par nos partenaires bordelais de la librairie Mola. Et vous, Stéphane Place?
Oui, c'est un très joli texte poétique avec évidemment plusieurs niveaux de lecture, un peu moins de 200 pages que l'on peut savourer en allant avec gourmandise d'un verre à l'autre comme l'on déguste un fruit d'été sucré, avec ce parfum d'enfance que les contes, ils ont cette vertu, viennent réveiller, raviver. Déjà rien que pour cela, s'en aller sur ces sentiers de rêve et de liberté, c'est passer un très bon moment. Avec cette jeune fille, Élise, qui vit dans la montagne avec ses parents, ma mère s'appelle Zéline, mon père Jacques, mais on dit plus volontiers Féline et le lion quand ils sortent les griffes ou font les yeux ronds. Les parents d'Élise et la fratrie réunis dans ce coin de paradis en pleine nature, jusqu'au jour où les deux aînés, deux frères, Onésime et Élisée, partent à la découverte des villes pour y faire leurs études. Mais Onésime et Élisée ne reviennent pas. Alors, sur les conseils d'une femme serpent rencontrée dans la forêt, Élise va les retrouver. Lucie Leroy, libraire chez Mola.
Le rapport de l'homme à son environnement, le rapport de l'homme à sa modernité, les rapports familiaux avec la société. Donc en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui ont vraiment un effet sur le lecteur très beau, très apaisant, très explicatif, sans du tout que ce soit documentaire. C'est un livre qui se lit très facilement parce que en termes de vocabulaire, etc., c'est tout à fait accessible et le rythme de ce livre est tel que de toute façon, on va tourner les pages de ce livre parce qu'on veut absolument arriver à la fin, parce qu'il y a vraiment un appel comme ça au lecteur. Et en même temps, le message est très profond. Je pense que c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui sont à la recherche d'une parenthèse de paix, de réflexion, une parenthèse de respiration aussi.
Balade où s'entremêlent le réel et le fantastique, hommage aussi qu'a voulu rendre l'autrice Bérangère Cournu à Élisée Reclus, géographe et écrivain du 19e siècle.
Élise, c'est une enfant dont on pourrait croire au début qu'elle vit au siècle dernier ou dans un environnement un peu éloigné d'une autre. Et puis en fait, il y a une forme un peu d'atemporalité. On s'aperçoit qu'Élise est un personnage contemporain pour nous. Mais c'est vrai que son origine au départ, c'était d'être le texte un hommage à Élisée Reclus et Élise une sœur fantasmée d'Élisée Reclus. Pour faire une articulation en fait, entre un univers littéraire qui est celui que j'ai créé dans ce livre et puis la figure d'Élisée Reclus qui a vécu au 19e et qui, tout en s'étant posé des questions de son temps, répond de manière, moi je trouve, avec beaucoup d'acuité aux questions qu'on se pose maintenant sur notre rapport à la nature, notre rapport au travail, tous nos rapports sociaux.
Élisée Reclus, géographe, anarchiste et précurseur de l'écologie qui répétait que l'homme devait vivre en harmonie avec la nature.
Merci Stéphane Place. Élise sur les chemins de Bérangère Cournu est paru aux éditions Le Tripode.